En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Poursuivant tout au long de l'année 2006 sa réflexion relative à la justice, l'Académie des sciences morales et politiques, sous la présidence de M. André Damien, a invité le lundi 26 juin 2006 M. Michel Dobkin pour évoquer la formation des juges. Michel Dobkin, après avoir été procureur général près la cour d'appel de Nîmes, est depuis le 20 octobre 2005 directeur de l'École nationale de la magistrature. La formation des juges est d'ailleurs dispensée par cette école. Et les récents débats sur l'affaire Doutreau ont ravivé les critiques dont l'école fait l'objet. Les juges, à la sortie de l'école, seraient trop jeunes, trop seuls, trop inexpérimentés, introvertis, car l'école dispenserait une formation trop technique dans un contexte corporatiste. Ces critiques méritent d'être tempérées en prenant en compte divers facteurs, ce qui fait l'objet de la communication de Michel Dobkin. Retrouvons-le dans la salle des séances.
Monsieur le Président André Damien, Monsieur le Bâtonnier, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président André Damien, j'ai beaucoup de plaisir à m'exprimer devant vous, car j'ai eu en 100 ans le privilège de passer mon diplôme d'avocat devant vous. C'était le grand oral, je ne me souviens plus des questions, mais vous m'aviez gratifié d'une très bonne note. Je vous ai retrouvé quelques années plus tard comme rapporteur au Conseil d'État sur des décrets qui étaient relatifs notamment au droit de la consommation, alors que j'étais commissaire de gouvernement. Ce sont, en ce qui me concerne, de bons souvenirs, c'était les années 80-90. Vous m'avez demandé aujourd'hui d'intervenir devant vous sur la formation du bon juge. Comme vous le savez, la formation des juges en France est dispensée par l'École nationale de la magistrature qui existe depuis 1958 à la suite d'une réforme voulue par le général de Gaulle et Michel Debré. L'ordonnance du 22 décembre 1958 porte la signature du général de Gaulle et de Michel Debré. Et c'est cette ordonnance qui a créé ce qui était alors un centre national d'études judiciaires, transformé en 1970 en ENM. L'école se trouve initialement à Paris, rue de la Faisanderie. Elle a migré à Bordeaux plus tard, à la suite de ce qu'on appelait alors la décentralisation culturelle, intellectuelle, voulue notamment par Pierre Sureau. Et c'est un conseil de cabinet d'avril 1960 qui décide de faire migrer l'école. La formation des juges en France, avant qu'elle ne soit confiée à cette école, était unanimement critiquée à cause de son manque de professionnalisme, son caractère dynastique. On passait en effet une sorte de concours après avoir fait des stages que certains ne parvenaient pas à obtenir sans relation. Michel Debré souhaitait pour le pays une magistrature professionnalisée, digne d'un État moderne, affirmait-il, et j'ai relu récemment un article qu'il avait publié en 1938, qu'il signe en tant qu'auditeur au Conseil d'État, dans une revue juridique, Dalloz, Ciré, où il dédie cet article à l'ENA, l'École nationale d'administration, la future ENA, et c'est assez curieux parce que par une petite note, un renvoi en bas de page, il dit « voilà, je me suis exprimé pendant 10 pages sur l'ENA, eh bien, dit-il, même chose pour les juges ». C'est-à-dire qu'il ne prend pas le soin de refaire un autre article. Il renvoie le même raisonnement qu'il a tenu pour l'ENA, la future ENA et la future ENM. En 1958, on raisonnait ainsi. La justice, la formation des juges, se devait d'être arrimée à l'État régalien, un État fort. C'est un peu 58, c'est quand même le discours de Bayeux, sa traduction concrète, constitutionnelle, juridique. D'ailleurs, à l'époque, on a hésité très longuement à créer un département judiciaire à l'ENA. Et récemment, l'ambassadeur d'Algérie en France me rendait une visite à l'ENM et il m'a indiqué qu'après l'indépendance, il y a eu beaucoup d'hésitations aussi sur une ENM algérienne. Et l'ambassadeur me disait qu'à l'époque, il avait rencontré le professeur Cassin qui l'avait dit « mais nous envisageons en Algérie de créer un département judiciaire de l'ENA ». Et le professeur Cassin lui avait répondu « surtout pas, surtout pas parce que dans une école de la magistrature, on ne doit pas apprendre à obéir. La formation des juges, la justice, tout cela traduit une certaine conception de l'État et du rapport que cet État entretient avec la justice et des missions qu'il lui assigne. Aux États-Unis, la justice a été pensée d'une manière radicalement différente. Je crois fondamentalement, mais ça mériterait une contribution, à raison des missions imparties à ces juges. Je crois qu'on ne peut pas isoler la formation des juges de l'analyse des rapports plus général entre État et justice dans un pays. En tout cas, aux yeux de Michel Debré, le recrutement des magistrats, postuler le concours, l'acquisition de la compétence, postuler une école. Pour lui, c'est le métier qui faisait l'école et non pas l'inverse. Nous vivons toujours selon ce schéma de recrutement. On devient juge en France après avoir passé un concours. Il est vrai qu'il existe d'autres voies d'accès à la magistrature, sur titre, mais le recrutement, qui exemplifie le modèle français, c'est celui du concours dit étudiant. C'est aussi sur ce mode de recrutement, vous le rappeliez, Monsieur le Président, que se concentrent les plus vives critiques. Je rappelle qu'il y a encore quelques semaines, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris a voté à la quasi-unanimité la suppression de l'École nationale de la magistrature. Ce concours ne garantirait rien, dit-on. Mieux vaudrait-on devenir juge après, par exemple, avoir été avocat ? C'est une des préconisations de la commission enquête parlementaire Outreau, ou après avoir exercé une autre activité. Les juges seraient trop jeunes, par l'effet même du concours. Le fait que l'enseignement à l'école est dispensé par des magistrats enseignants permanents est aussi souvent critiqué. Manque d'ouverture, dit-on, culture de l'entre-soi, propice à toutes les clôtures, à tous les corporatismes. Tout n'est pas à rejeter dans ce constat de critique, mais les choses sont tout de même plus complexe qu'il n'y paraît, et je voudrais saisir cette occasion pour introduire un peu de complexité dans cette matière et me tenir à distance des lieux communs et des simplifications hâtives. Mes observations porteront sur l'âge des juges, sur l'expérience, sur la collégialité, sur l'ouverture des juges. Je vous livrerai ensuite quelques réflexions sur le contexte dans lequel s'inscrit nécessairement l'action du juge qu'on aurait garde oublié. Ma première série d'observations tentera de répondre à cette question. Le bon juge est-il un juge jeune ou un juge qui a de l'âge ? À ce sujet, je voudrais partir d'une expérience collective, récente, un peu empirique, vous m'en excuserez, vécue par des milliers de Français. Je pense à l'audition de mon collègue Fabrice Burgot. Ce qui a retenu mon attention, ça n'est pas lui et ce qu'il a dit, c'est la réception sociale de son discours, de son image, ou pour être plus précis, de ce dont il a été peut-être à son corps défendant le support. Je pense qu'à cette occasion, c'est pour une part exprimer une sorte d'inconscient collectif, ou en tout cas une idée assez précise que certains se font de ce que doit être un juge, même si c'est en creux, en négatif. Mais quelque chose de porteur de signification, de sens, et qu'on aurait tort de disqualifier en opinion, en méconnaissance, en émotionnel, comme j'ai pu le lire ici ou là. Il y a là, je crois, quelque chose de rationnel à saisir. On peut dire globalement que les téléspectateurs ont été surpris par l'extrême jeunesse du juge. Cette jeunesse, dans toutes ses manifestations physiques, intellectuelles, a suscité beaucoup de réactions. Réactions devant ce que j'appellerais un juge fils, heurtant de plein fouet sans doute la représentation collective et sociale d'un juge père. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette représentation n'a que peu à voir avec la réalité présente de la magistrature. Ma promotion en 2006, c'est 78,80% de jeunes femmes. Quasiment 8 auditeurs sur 10 sont des jeunes femmes, dont la moyenne d'âge se situe aux environs de 25 ans. 224 jeunes femmes sur un total de 287 auditeurs de justice cette année. Et il est vrai que l'on peut être très jeune juge en France, et ce d'autant que, de manière assez paradoxale, un candidat qui présente le concours étudiant ne doit pas être âgé de plus de 27 ans au moment où il concourt. C'est la loi. De manière assez symbolique et sauf erreur de ma part, aucun texte ne fixe d'âge minimal pour être juge dans notre pays. Je parle bien sûr du concours étudiant qui pourvoit tout de même 77% de mes promotions. Ces illustrations sans doute qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Après tout, Daguesseau avait été reçu dans la charge d'avocat général à 22 ans, et dans celle de procureur général à 33 ans. Montesquieu était entré au Parlement de Bordeaux à 24 ans. Mais en citant ces exemples, on glisse, je crois, insensiblement dans les délices de l'anachronisme. L'âge auquel on recrute les juges en France n'est pas propre à l'institution judiciaire, dans la mesure où tous les concours de la fonction publique recrutent de cette manière-là. Il reste que la fonction de juger est singulière et que l'âge des juges a toujours fait débat. Mais il a fait débat dans les deux sens. Trop jeune, mais aussi parfois trop âgé. Il a toujours été considéré que la prudence et la sagesse sont l'apanage de l'âge mûr. François Ier avait ainsi ordonné que les présidents de Parlement eussent au moins 30 ans, les conseillers au moins 26 ans. En réalité, ces règles n'étaient, semble-t-il, à peu près jamais respectées. Ainsi, on trouvait des conseillers de 19 ans au Parlement de Bordeaux. Mais le grand âge faisait aussi débat, car on mourait tard dans la magistrature. Pendant longtemps, il n'y eut pas de limite d'âge, de sorte que certaines cours avaient leur lot d'infirmes, d'aveugles, des cours des miracles judiciaires. Séguier meurt en fonction à 80 ans. Henrion de Pensée est nommé premier président de la Cour de cassation à 86 ans. Boyer, président de chambre, termine quasiment aveugle à 89 ans. La chronique rapporte qu'au moment de la Révolution de 1848, le juge d'instruction de Tarascon, Burle, âgé de 83 ans, ne peut plus effectuer le transport de justice. Tout cela est fâcheux. On dit que les arrêts rendus en matière pénale sont durs, à raison, je cite, de l'insensibilité des vieillards. Ce n'est que le 1er mars 1852 qu'une limite d'âge est fixée dans la magistrature. Mais où situer l'âge de raison judiciaire, plus généralement l'âge de raison ? Je relisais récemment, à l'occasion du centenaire de la naissance de Freud, quelques-unes de ses trouvailles savoureuses sur ce temps qui, pour certains, ne passe pas, sur la permanence de l'enfant chez l'adulte, sur les intemporalités de l'inconscient. On peut aussi rire de toutes ces trouvailles. Ma seconde série d'observations portera sur l'expérience. On a souvent pensé que l'expérience acquise notamment dans d'autres domaines de la vie, qu'il s'agisse du domaine social, associatif, administratif, judiciaire, suffisait pour faire un bon juge. Les anglo-saxons pensent un peu comme cela, même si c'est plus compliqué que cela. C'est un peu ce qui a présidé à la réforme relative à la justice de proximité, une justice citoyenne empreinte d'un solide bon sens. Il y a là, je pense, une idée un peu bucolique, un peu rurale, un peu champêtre du juge, une certaine idée de l'acte de juger que je qualifierais de romantique. Mais au moins dans les pays latins, on considère que l'expérience ne fait pas à elle seule le bon juge, ne serait-ce, pense-t-on, parce que juger est un métier qui a ses techniques, ses finesses, ses difficultés. C'est au demeurant ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 février 2003 rendue à l'occasion de l'examen de la loi organique relative au juge de proximité dans un considérant qui a le mérite de la clarté. Considérant que si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires, ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats, ni leur exercice professionnel antérieur, ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions de proximité. Le Conseil a évoqué à plusieurs reprises dans ses décisions l'aptitude à juger, condition essentielle à ses yeux pour devenir juge. Il a aussi jugé que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. Somme toute, pour le Conseil constitutionnel, pour nous Français, il y a un habitus propre au juge, un habitus du juge, c'est-à-dire une manière d'être, un savoir, une connaissance, une technique, mais pas au sens moderne du mot, mais plutôt au sens de savoir acquis pour pouvoir juger. En clair, on peut être brillant notaire, brillant avocat et piètre juge, l'inverse étant tout aussi vrai. À propos du recrutement de personnes qui cessaient à devenir magistrats, je signe tous les jours dans mon cabinet des bilans de stage probatoires très désagréables sur la tenue de l'audience défaillante, sur le manque de rigueur juridique, sur la technique de rédaction du jugement civil. Pourtant, je ne puis que le constater, ces personnes excellent dans leur métier. Mais je reviens à la jeunesse des juges. l'inexpérience, l'intempérance, la raideur peuvent aussi se révéler, pas toujours, l'apanage de la jeunesse et de ceux qui ont réussi à un concours. Ce sésame social, cet acte de magie qui sépare ceux qui l'ont eu de ceux qui ne l'ont pas eu. Cet acte, vous le rappeliez, Monsieur le Président, qui officialise et vous fait croire, que vous êtes le meilleur. Aussi, ma troisième série d'observations portera-t-elle sur la pondération et l'humanisme du juge. Mieux vaut, tel est ce que je crois, ne pas s'en remettre exclusivement à la subjectivité de tel ou tel juge. Une bonne justice, c'est une justice pondérée. Je ne suis pas sûr que l'on se pondère bien tout seul. Il faut donc en quelque sorte trouver un ou des facteurs de pondération. Au nombre de ces facteurs, il y a la pluralité. Je voudrais en dire quelques mots. Comme je vous l'ai indiqué, un juge sort de l'École nationale de la magistrature en moyenne à 26 ans. Il est alors juge de plein exercice. Lui fait nécessairement défaut l'expérience et parfois la pondération. J'en ai 287 comme cela, au titre de la promotion 2006. Il leur reste à acquérir cette fameuse pondération et le souci de l'autre. C'est le premier devoir de l'école que je dirige, que de leur faire prendre conscience de ceci. La réussite au concours ne postule pas que l'on est apte à juger. Le concours n'est pas non plus nécessairement la meilleure voie pour être modeste, humain, à l'écoute. Ces derniers temps, au plus fort de l'affaire Doutreau, on m'a demandé si l'humanisme, l'humilité, le doute, l'écart avec soi-même s'enseignaient. Je ne suis pas sûr qu'on lutte contre toutes ces formes de narcissisme par un enseignement académique qui aurait pour objet d'en dévoiler les limites et les impasses. Cependant, évoquer ces thèmes, dans le cadre notamment d'un enseignement, ne peut pas faire de mal. C'est ce que j'ai décidé de mettre en œuvre à l'ENM, des enseignements en matière de psychologie, pour en enseigner les principes de manière académique, universitaire. Mais un enseignement de psychologie, ça ne déconstruit parfois rien du tout, parce que certaines choses peuvent résister. En matière judiciaire comme ailleurs, on a toujours affaire à l'insociable sociabilité des personnes, et c'est une forme d'insociabilité qui menace en permanence, d'où l'obligation dans laquelle on se trouve de courir à des biais qui contrarient ces tendances-là. C'est dans cet esprit, je crois pouvoir le dire, que le premier président de la Cour de cassation, M. Guy Canivet, a formulé certaines propositions s'agissant de la formation des juges. Ces propositions, j'en partage l'esprit. Il a notamment exprimé le souhait qu'à la sortie de l'école, les jeunes magistrats soient affectés dans des cours d'appel au contact de collègues aguerris au sein de collégialité. C'est une proposition originale et novatrice. Je le cite, « Les jeunes magistrats apprendraient la pratique de la décision collégiale. Il n'y aurait pas de meilleure formation. » Et les magistrats des cours d'appel bénéficieraient sans aucun doute de l'apport dynamique de ces jeunes collègues, de leur fraîcheur d'esprit et de leur science récente. Dans une collégialité, les rapports intergénérationnels sont indispensables. Il a préconisé pour les mêmes raisons la collégialité pour les juges d'instruction. Il est vrai qu'un bon juge est un juge qui ne décide pas seul. La pluralité est un facteur de pondération, une école de vertu, de limitation. On pourrait d'ailleurs, de manière objective, déterminer le nombre de magistrats nécessaires pour rendre une délibération. Dans son ouvrage intitulé « Essai sur l'idée du parfait magistrat », La Roche-Flavin indiquait que c'est une notion commune à tous les hommes, que plusieurs yeux voient mieux qu'un, qu'une affaire examinée par un grand nombre de personnes éclairées est toujours beaucoup mieux que par un nombre plus petit. Pour qu'un arrêt fût rendu au Parlement de Paris, il fallait que 10 opinants fussent présents. On sait qu'aujourd'hui, de nombreux juges opinent seuls, et cela me paraît fâcheux. Ma quatrième et dernière série d'observations portera sur l'esprit d'ouverture, l'ouverture au monde. Le narcissisme des petites différences accourt partout. La sortie de soi ne se produit pas souvent et la magistrature n'échappe pas à la règle. Je dirais qu'il s'agit là, comme ailleurs, de penser contre soi-même. Cela me paraît essentiel, mais pas nécessairement à portée de main. Il y a des juges qui ne sont que des juges et qui ne pensent pas contre eux-mêmes. Il faut les y aider. En tant que directeur de l'École nationale de la magistrature, j'ai décidé d'accueillir à l'école des élèves avocats qui suivront toute la scolarité d'un juge. C'est la première fois depuis 1958. J'ai voulu que ces élèves avocats assistent in vivo à cette incubation au terme de laquelle un juge né se développe puis croît. J'espère pour ma part que nous serons confrontés, de par cette expérience, pour une part symbolique, à d'autres attentes, à d'autres questionnements sur nos pratiques. De la même façon, je souhaite diversifier le corps enseignant de cette école. J'ai entrepris à cet égard des démarches vers l'université, le barreau, mais aussi vers un juge américain de common law, vers les magistrats de juridiction, comme ceux par exemple des cours d'appel et de la cour de cassation, qui n'enseignent pas chez nous. À terme, il faudra qu'il y ait au sein de l'École nationale de la magistrature un corps de professeurs associés, aux côtés bien sûr d'un corps de permanents qui demeure, je crois, indispensable. Il conviendrait aussi, j'en suis convaincu, que les magistrats soient au cours de leur carrière astreints à une obligation de mobilité. 2 fois 3 ans, par exemple, obligation de mobilité qui les obligerait à quitter le corps judiciaire pour occuper un autre emploi, y compris dans le secteur privé, comme cela se pratique pour les anciens élèves de l'École nationale d'administration. Je voudrais à présent évoquer en quelques mots notre contexte de travail à nous magistrats. L'État a certes le devoir de garantir aux citoyens que les juges sont bien formés, mais la formation, ça n'est pas le tout de la justice. Il y a aussi le cadre de l'exercice, le temps, l'air du temps, la production normative, en bref, de nombreux facteurs qui peuvent oblitérer la meilleure des formations. Je n'ai choisi d'évoquer devant vous que 2 de ces facteurs. Le facteur que, faute de mieux, j'appellerais le facteur intellectuel et moral, et le facteur normatif au sens large. Ma première observation sera relative au contexte moral et intellectuel et concernera l'autorité de la justice. À propos de l'au-delà dans l'art, Nietzsche remarquait qu'un art, comme la Divine Comédie, les tableaux de Raphaël, les fresques de Michel-Ange, les cathédrales gothiques, ne peut plus refleurir, car il suppose non seulement une signification cosmique, mais encore une signification métaphysique des objets d'art. Il notait que les artistes, on le sait tous, rapportaient leur représentation à une explication céleste. Et il concluait, il se fera une émouvante légende de ce qu'il ait pu exister un tel art, une telle foi d'artiste. Comme en matière d'art, je crois qu'il n'y a plus d'au-delà de la justice. Mais il en a existé un. Je crois que juger aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même chose que juger au temps jadis, parce que les représentations de la justice ont profondément changé. Aujourd'hui, au plan pénal notamment, par-delà le cas particulier de celui que l'on juge, on juge un fragment de conscience moderne, cette conscience difficile, libre, qu'aucune transcendance n'habite plus désormais et qui ne regarde plus son juge avec la même foi. Mais ces temps d'avant, qu'étaient-ils ? Peut-on même en avoir une idée ? Et par contraste, quel est notre temps ? Je voudrais vous citer un seul exemple de ces temps judiciaires d'avant. Le chancelier d'Aguesso, dans une de ses mercuriales de 1699, à propos du délibéré judiciaire, écrivait ceci. 1699, la date a son importance, on est encore loin de la Révolution et de l'émergence de l'opinion publique dont les historiens situent l'apparition au début du XVIIIe siècle. Je vous livre cet extrait. La raison avait divisé les suffrages, l'autorité les réunit et la vérité adopte éternellement ce que la justice a une fois décidé. On aurait tort de ne voir dans cette manière d'écrire qu'une forme pompeuse et désuète de s'exprimer. Il est question d'autorité, de vérité, d'éternité. Ce qui s'exprime ici, ça n'est pas la mauvaise littérature, c'est aussi avant tout l'expression d'une conscience judiciaire de notre temps qu'on a peine à saisir. Si l'on veut retrouver la teneur positive de l'expression de cette conscience judiciaire de D'Aguesso, il nous faut mettre hors jeu le sens qui est celui dans lequel tout le monde aujourd'hui perçoit ces mots et qui ne peuvent être dits en ces termes qu'à raison de leur recevabilité, de leur réception. Il s'agit du temps de la société des ordres et des États. C'est un temps où le plan humain est encore identifié au plan divin de la nature. C'est un temps où Dieu a mis entre les mains des hommes des rapports stables de valeur. C'est un temps où l'opinion publique n'est pas encore formée. Ce temps-là n'est plus où l'autorité, ce supplément si singulier, réunit les suffrages et où la vérité adopte éternellement ce que la justice a une fois décidé. Ce temps n'est plus, et la justice œuvre désormais au sein d'un espace public structuré apparu il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que cet espace public ? C'est un espace de discussion et d'échange au sein duquel la justice a perdu son autorité, autorité désormais soumise à la question, même après que la chose a été jugée. C'est un espace au sein duquel la justice n'a plus le monopole de l'évaluation de ses productions. C'est un espace où elle doit rendre des comptes à une communauté critique, acerbe, libre, flottante, déliée de tout. Le juge juge désormais dans ce contexte de réceptivité, outré, où règne l'égalité dans l'échange des jugements, dans l'exercice de la critique, dans la confrontation des opinions. On peut ainsi avoir été bien formé et se retrouver mauvais juge. Seul le tribunal de l'opinion octroie les bons et mauvais points, procède au départage selon ses propres critères. Il en va de la validation ou de l'invalidation de l'objet judiciaire. Ma deuxième observation portera sur le contexte normatif. Il est devenu complexe, instable. C'est un contexte où la norme applicable est plus que jamais sujette à interprétation. À de multiples reprises, le Conseil constitutionnel a dû rappeler que l'intelligibilité de la loi et son accessibilité constituent un objectif de valeur constitutionnelle. Dans une décision du 12 janvier 2002, à propos de la loi de modernisation sociale, les requérants invoquaient, je cite, « un grief tiré d'un défaut de clarté et d'intelligibilité de certains de ces articles. Des lois complexes qui entraînent une valse hésitation des interprétations. Je voudrais à cet égard me risquer à évoquer les relations que le droit à grande peine a entretient avec l'art contemporain. Lors d'une vente aux enchères publiques, une personne s'était portée acquéreur d'un tableau d'un artiste contemporain, du moins le pensait-elle. Au dos de l'œuvre figurait un texte de cet article signé et daté sous le titre « Brevet » indiquant, je cite, « Ne prenez pas mes tableaux pièges pour des œuvres d'art, c'est une information, une provocation, une indication pour l'œil de regarder les choses qu'il n'a pas l'habitude de regarder. Fabriqué sous licence pour Guy X, en foi de quoi j'authentifie. » L'acquéreur, 3 années plus tard, s'avisait que le tableau n'était pas de la main de l'auteur, mais que, sur la proposition faite par celui-ci aux visiteurs d'une exposition d'exécuter un tableau piège, il avait été réalisé par un enfant de 11 ans à qui l'artiste avait délivré un brevet de garantie destiné à être collé au dos du tableau. La justice a oscillé entre 3 interprétations. L'exécution personnelle d'une œuvre est-elle la condition nécessaire et suffisante de la reconnaissance de la qualité d'auteur? Première interprétation. Mais l'artiste en cause appartient à l'école des nouveaux réalistes, qui considèrent que le plus important n'est pas que l'œuvre soit réalisée de la main de l'auteur, mais plutôt qu'il utilise des objets de la vie quotidienne pour donner sa vision de la réalité. Deuxième interprétation. Ne peut-on pas considérer que l'indication qu'une œuvre porte la signature d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur? Somme toute, c'est l'interprétation la plus évidente. Mais si cette interprétation devait prévaloir, des commentateurs très avisés n'ont pas manqué de faire remarquer qu'elle mettrait à mal la qualification d'œuvre d'art des ready-made. Ces objets utilitaires, placés dans certaines conditions muséales et signés de la main de l'artiste. On pense bien sûr à l'œuvre d'art Fontaine de Duchamp, ready-made constituée d'une pissotière. Cet urinoir signé Hermut 1917, qualifié d'œuvre d'art par la seule grâce de la signature de Duchamp. On peut désormais gloser à l'infini sur ce qu'est ou n'est pas un auteur. Sur la main et l'esprit, sur l'œuvre écrite par autrui, sur la négritude littéraire, sur l'idée artistique fournie à un tiers en vue de sa réalisation. Voilà notre post-modernité juridique et judiciaire. Conflit interminable des interprétations résultant d'un monde sans critères esthétiques auquel la justice oppose son univers terminé. Dès lors, juger devient difficile, hasardeux. Pour conclure mon propos, je voudrais insister sur le fait qu'une magistrature moderne, c'est bien sûr une magistrature bien formée, ouverte sur le monde. C'est aussi une magistrature qui exerce son art dans un contexte et un cadre. Je terminerai là-dessus 3 mots sur le cadre. En peinture, la perspective a été une formidable invention sur laquelle on discute encore. Daniel Arras expliquait que la première opération du peintre avant le point de fuite, c'est le cadrage, c'est-à-dire le fait de poser un cadre à l'intérieur duquel on pourra contempler une histoire. C'est le cadre qui détermine toute la perspective. Pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que nous n'avons toujours pas modifié le cadre à l'intérieur duquel s'exerce la justice en France. On change souvent les proportions, mais à l'intérieur du même cadre. On a toujours 35 cours d'appel et 180 tribunaux. En Méditerranée, où j'étais procureur général récemment, il y avait une cour d'appel tous les 40 kilomètres. On a dit aux Français que leur justice marchait sur la tête. C'est un peu vrai, mais pour qu'elle marche mieux, encore faudrait-il notamment qu'on change de cadre. Peut-être la justice trouvera-t-elle un jour son Alberti, qui lui tracera un nouveau cadre à l'intérieur duquel pourra alors s'écrire une autre histoire judiciaire. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de M. Michel Dobkin du lundi 26 juin 2006. Elle portait pour titre « La formation du bon juge ».